France Musique. France Musique, les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Emmanuel Cesson, je suis né le 17 avril 1984 à Oullins, dans le Rhône, à côté de Lyon. Et je suis harpiste, avec un H, parce que je joue de la harpe.
Vous allez arriver au Conservatoire de Paris, CNSM de Paris. Vous êtes tout jeune, Emmanuel.
16 ans.
Cesson, 16 ans. Oui. Ça veut dire que vous quittez vos parents, vous quittez votre grande sœur et vous vous installez tout seul en résidence universitaire.
Voilà, effectivement.
Alors ça a été.
Oui, c'est pas facile, mais je pense que l'adolescent attendait ça parce qu'homosexuel et complexé, étant incapable de vivre. Parce que je vivais chez mes parents, parce que j'étais dépendant, extrêmement dépendant de mes parents quand j'étais à Lyon, parce qu'en fait on n'habitait pas Lyon même, donc il n'y avait pas de transport en commun pour se rendre en ville, donc j'étais dépendant d'eux pour me conduire le matin à l'école, me ramener après, etc. Et l'entrée au CNSM, donc c'était la même année que mon bac scientifique. À cette période-là, les entrées au CNSM c'était février. J'avais des exemptions de cours, parce que mon bac scientifique avec spécialité maths, il y avait quand même vachement d'heures de cours par semaine aussi. Mais donc j'avais des voies d'oxygène, le lycée s'était organisé pour me laisser un peu de temps pour ça. Je me souviens, je rentre au CNSM, donc à 16, en mois d'avril j'ai eu 17 ans. Et donc au mois d'avril, il a fallu se décider sur justement, je voulais pas vivre en internat. Donc mes parents m'ont fait émanciper, on a dû aller au tribunal d'instance devant un juge pour voilà dire que mes parents étaient d'accord et que moi je voulais être émancipé parce que je voulais vivre de manière indépendante comme étudiant à Paris. Et ensuite trouver l'appart, donc les premières années ça a été dans la structure CNSM mais quand même en appart indépendant, donc j'étais autonome. Mais oui, c'était quitter le nid avec grande impatience et puis en même temps découvrir ce que c'est que la vie parisienne, les premières expériences amoureuses aussi. Ça a été un tourbillon. Ça n'a pas été des années faciles. Hein. 17, 18 ans, ça a été compliqué parce qu'aussi, effectivement, physiquement, comme je vous l'ai dit, j'étais un petit gros, j'étais un petit garçon qui avait beaucoup mangé et qui mangeait son stress. Et donc, quand on arrive sur la scène parisienne, j'allais dire homosexuel à 17 ans, qu'on a les hormones qui bouillonnent, etc. J'ai voulu un peu correspondre à une certaine forme de modèle, enfin il faut être mince, il faut etc. Donc je me souviens d'avoir fait des régimes à n'en plus finir. J'ai fait un peu d'anorexie à une période. D'ailleurs j'étais loin d'être le seul au CNSM. Mais changement radical, 17 ans, arrivé à Paris, découverte donc de la capitale et en même temps j'allais dire finalement je n'ai pas vraiment découvert Paris parce que j'étais vraiment harpe et
dans
quand
la
j'étais
musique.
Pas ouais dans la musique. Alors dans le sport aussi, parce que pour perdre du poids, j'allais à la piscine. Je me faisais 2 kilomètres tous les matins avant d'aller bosser.
Mais et voilà. Quand vous êtes comme ça, tout jeune à Paris, et que vous avez ce tempérament hein, qui est excessif, qu'on entend, et que vous changez aussi un peu du tout au tout pour correspondre à des canons, pour vous sentir mieux avec vous-même, vos parents, eux, comment ils voient cette transformation? Ils sont inquiets?
Ah oui, ça a été... Et en même temps, j'ai eu beaucoup de chance, je veux dire. J'ai eu beaucoup de chance. D'une part, j'ai jamais eu à travailler un jour de ma vie avant d'avoir mon premier vrai travail. Parce que mon père prenait soin de moi, j'allais dire. Enfin, mon loyer était payé par mon père, etc. Et en plus de ça, donc, j'ai rué dans les brancards. C'est que je suis arrivé à Paris à 17 ans. Et genre, un mois plus tard, j'arrive chez mes parents à Chaponneau et je fais mon coming out. Voilà, parce que je vivais, quoi. La bulle avait explosé, j'étais sorti de la bulle. Et donc, je ne pouvais pas non plus, vis-à-vis de mes parents, ne pas partager ça avec eux. Et finalement, ça a été plus dur pour moi à avouer que pour eux à accepter, parce que j'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu de la chance. Quoi. Et ça s'est très bien passé. Tout de suite, ils m'ont dit, c'est pas parce que t'es homosexuel qu'on t'aime moins. Voilà, juste, pense pour ma mère, ça a été une source d'inquiétude parce qu'il y a eu, on était à début des années 2000, la crise des années SIDA était pas si loin que ça, et donc il y avait une inquiétude, j'allais dire, de ce point de vue-là. Voilà, donc j'ai eu quand même des petites mises en garde, j'allais dire. Mais effectivement, ça s'est plutôt bien passé.
Isabelle Moretti, alors, dans toute cette période de grands changements pour vous, où c'est vrai qu'on devient aussi un homme, un adulte, c'est un rôle très important, le professeur, évidemment.
Oui.
Quel rôle elle a eu? Quel était votre...
Isabelle, c'est compliqué, hein, parce qu'en fait, Isabelle est un peu une maman, parce qu'elle elle le vit son enseignement comme ça. Et donc, avec Isabelle, j'allais dire, ça a été... c'était pas amour-haine, ça c'était pas aussi fort que ça, mais il y avait quand même une forme de... Quand je suis arrivé au CNSM, je me souviens, je la tutoyais, et tout de suite, elle m'a remis à ma place. Et depuis ce jour, elle l'a pas fait méchamment, mais je pense que... voilà, elle est comme ça, elle voulait maintenir, et ce qui était bien, cette espèce de rapport maître-élève. Et donc, encore aujourd'hui, je la vouvoie, Isabelle. Comme j'ai toujours vouvoyé Germaine, voilà. Mais effectivement, donc il y a eu ce rapport... un peu compliqué parce que elle voulait me faire réenvisager des choses. Moi, je pense que j'étais déjà doué, je veux dire, même vis-à-vis de la classe, mais j'étais un petit péteux parce que au CNR de Lyon, j'avais personne pour me faire concurrence, vraiment, j'étais un peu premier de la classe. Et là, j'arrivais au CNSM, il y avait des gens qui avaient quand même un super niveau. J'avais déjà eu un deuxième prix de concours international junior l'année d'avant de rentrer. J'arrivais avec mes certitudes, etc. Et moi, finalement, ça m'a un peu isolé vis-à-vis du reste de la classe parce que j'étais un peu ce petit con qui était sûr de lui. Et ça, ça m'a fait aussi... La première année, ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me suis senti super seul.
Et mais donc, ça n'a pas été tout de suite, les grandes amitiés
Ah non, en fait, finalement, les grandes amitiés, elles sont arrivées très vite, mais elles sont pas arrivées dans la classe de harpe. Et même encore aujourd'hui, j'ai pas d'amitié super profonde avec beaucoup de harpistes.
Plus dans la musique de chambre, en fait.
Voilà, ou dehors, chez les pianistes. C'est-à-dire que moi, c'est les pianistes qui m'ont fasciné, parce que j'avais aussi cette éducation très théorique que la plupart de mes collègues dans la classe de harpe n'avaient pas. Moi, j'ai tout de suite commencé au CNSM à suivre les classes d'harmonie, donc initiation à l'harmonie. Et ensuite, j'ai eu un prix aussi. Je suis rentré ensuite en prix d'harmonie. Donc, j'ai fait toutes mes classes d'initiation. Puis, au bout de 2 ans, j'ai fait l'harmonie en parallèle avec le.
C'était quoi ce que vous recherchiez avec cette harmonie, d'aller toujours plus loin dans la compréhension du texte?
Ouais, c'est ça. Je vais vous dire un truc. Et c'est la première fois peut-être que je le dis. Ça, c'est parce que l'harmonie, vous savez ce que c'est. C'est on vous donne une mélodie et puis vous devez écrire ce qu'il y a dessous. Et en fait, mine de rien, il y a un truc extrêmement instinctif. C'est-à-dire que même si j'aimais l'explication des chorales de Bach, décortiquer tous les chorales de Bach dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers, les quatuors de Schubert ou de Mozart, etc. En fait, mine de rien, quand j'étais en devoir d'harmonie, en loge, pendant les 7 heures de loge qu'on se payait à la fin de chaque année, eh ben, je me chantais la mélodie, je fermais les yeux, et ce qu'il y avait dessous, ça me venait. Et c'était pas il faut un accord de gna gna gna, j'étais pas dans l'intellectuel, et l'harmonie au CNSM m'a remis d'équerre avec mon instinct, en fait, aussi, parce que finalement je chantais cette mélodie de Bach et j'entendais dessous des choses, et après j'essayais, et puis ensuite effectivement je pliais ce que j'entendais aux règles stylistiques de la période demandée. Mais mine de rien, l'harmonie m'a remis d'équerre avec mon instinct, et Isabelle m'a également remis d'équerre avec mon instinct, parce qu'elle...
Là, sur le plan du geste.
Voilà, mais elle n'entendait rien à toutes mes explications théoriques. C'est-à-dire, quand j'arrivais encore, je disais, oui, mais là, c'est une quartée sixte sur une pédale de dominante. Elle me disait, tu me dis ça, mais je l'entends pas. Elle avait raison. Elle m'a donc... Son premier travail, c'était de m'ouvrir les oreilles.
Oui, parce que c'était un paravent, en fait, d'une certaine façon.
Ah bah oui, je me cachais derrière, je pense. J'avais construit ma muraille de théorie pour ne pas voir le petit garçon qui souffre derrière. Et finalement, elle m'a remis en contact avec lui, et elle m'a appris, parce qu'elle, c'est une instinctive, au point elle-même, que je pense que c'est presque trop pour elle.
C'est-à-dire mais c'est difficile de l'enseigner, l'instinct.
Oui, et elle a ce génie-là.
Thank you.
ça passait par des images, ça passait par des sensations.
Isabelle et Germaine, elles touchent là physiquement. Donc il y avait ce contact de la main, il y avait, elles nous touchent très souvent le dos, les épaules, etc. Donc il y avait cette connexion tactile qui est essentielle à l'art de toute façon. Et puis chez Isabelle, il y avait des images, mais il y avait un amour de la musique. Et chez Germaine encore plus. Je me souviens de ces journées de 7 heures de cours que je pouvais passer chez Germaine. Il y avait toujours un moment où elle sortait un de ses vinyles et qu'elle me faisait écouter Kirsten Flagstadt dans Wagner. Alors que pourtant, Wagner, ça me parlait pas forcément énormément à l'époque. Ou Strauss. Je pense que l'opéra favori d'Isabelle et de Germaine, c'est le Chevalier à la Rose de Strauss. Les couleurs me touchaient, et sans pour autant que j'arrive à les expliquer, parce que les harmonies straussiennes sont quand même complexes d'un point de vue théorique à vraiment expliquer bien. Elle me reconnectait en faisant ça à mon émotion, finalement, d'enfant aussi de 6 ans qui écoute le concerto pour flûte de Mozart et qui est fasciné sans savoir ce qui lui arrive, hein, de rien. Et c'est super important, ça, parce que quand on joue, et ça, je l'ai encore compris encore plus tard par moi-même, c'est ça qu'on habite. C'est pas la carte sixte ou la pédale de dominante. Je veux dire, ça, en fait, c'est des outils qui permettent d'accélérer le travail. Ça, je l'ai compris plus tard. Mais finalement, le vrai travail, c'est d'arriver à dépasser ça et de se reconnecter avec l'enfant intérieur ou avec la personne. C'est plus forcément un enfant, d'ailleurs. On grandit aussi, mais c'est une personne sur scène, c'est un être humain avec ses blessures, dans l'état dans lequel il est le jour où il est, avec ses fragilités. Et ce qui est intéressant, c'est ses fêlures, c'est ce qu'il vit à ce moment-là et qu'il arrive justement à se connecter avec ça.
En même temps, c'est le complexe du comédien, parce qu'il faut aussi être maître de soi.
Oui, il faut arriver à effectivement donner le change, parce qu'on est sur scène.
Et ça, vous vous laissez dépasser parfois? C'est quelque chose qui vous arrive, Emmanuel Cesson?
Ah oui, le meilleur. Mais j'allais dire, j'ai la chance pour ça d'être harpiste. Je serais pianiste, genre je serais Yu Jawang, où on fait, j'allais dire, entre 200 et 250, alors peut-être qu'elle en fait moins maintenant, mais j'allais dire 200, 250 concerts par an. Là, il faut savoir donner le change. Mais moi, avec la harpe, on fait moins de récitals. Si au bas mot, on fait 20 récitals dans une année, c'est une bonne année. Parce que les récitals de harpe, ça intéresse moins les organisateurs de concerts. Et donc finalement, quand on y va, c'est moins souvent. Et donc, on a plus cette notion de plaisir. On a moins cette notion de being fed up, de plus en pouvoir, quoi, d'en avoir marre. Donc moi, mon rapport au concert, au récital, il est quand même toujours assez dans l'ingénuité. J'en profite, quoi. J'ai pas trop à me forcer. J'ai jamais eu vraiment à trop me forcer pour ça. Là où je me force, c'est quand je suis à l'orchestre, parce que là le Met, par exemple, ça a été le tourbillon, c'était non-stop. Il faut y aller, quoi. Mais ça s'entend moins, j'allais dire, quand on essaye de donner l'échange à l'opéra, parce que c'est une partie mêlée à d'autres, en fait.
France Musique, les grands entretiens d'Emmanuel Cesson.
Dans les années comme ça du CNSM, et après on va les quitter pour rentrer dans la vie professionnelle, Emmanuel Cesson, il y a plusieurs professeurs qui sont marquants. Isabelle Moretti, on l'a dit. Les cours d'harmonie, c'est important.
Ah oui. J'ai eu... Donc il y avait deux profs vraiment géniaux. Il y avait Catherine Brière, qui était celle qui était en initiation, qui était... une femme géniale qui nous faisait chanter les chorales de Bach à chaque fin de cours d'harmonie, etc. Et puis il y a eu ce prof d'harmonie génial qui était tout jeune, qui venait d'arriver quand j'ai commencé mes classes, qui s'appelait Cyril Laine, qui est aussi improvisateur au clavier et qui nous a donné ce côté super décomplexé de l'harmonie. Et moi, il me laissait en plus, il savait que j'étais en majeur, enfin que j'avais la harpe à côté, donc... Bon, si je léchais pas trop mes arrangements, il allait pas je me faisais pas taper sur les doigts, quoi. Et ça, c'était chouette. Il m'a vraiment fait continuer d'aimer ça, quoi.
Et c'est quoi le lien entre l'harmonie et la mécanique à la harpe?
Ah bah c'est intrinsèque, et c'est ça qui me donne, je pense aussi, un certain avantage par rapport à d'autres. Mais pourtant, ça m'est venu tôt, parce que vous savez, les harpistes ont dit qu'il faut noter ses pédales. On nous apprend très jeune à écrire les pédales sur la partition, etc. Moi, j'ai toujours rechigné à faire ça, parce que je pense que j'avais un poil dans la main. Déjà, j'étais flemmard, donc j'aimais pas passer du temps. Mais aussi, ça a fait que très vite, mes pédales, je devais les entendre.
Les pédales, pour les auditeurs qui connaissent pas le fonctionnement de la harpe, hein, les pédales, c'est pour les modulations.
J'ai cette petite explication qui est pas mal, c'est que une harpe, c'est comme un piano qu'avec des touches blanches, si on touche pas aux pédales. Et en fait, on a donc 7 pédales, une par note de la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et chaque pédale a 3 positions, une position pour le bémol, une position pour le bécart qui est au milieu et une position pour le dièse qui est en bas. Et donc, quand on actionne la pédale qui correspond à la note do et qu'on la met en position dièse, par le truchement d'une mécanique très complexe, tous les do de la harpe deviennent dièse. Voilà. Donc, finalement, ce système qui a été inventé par Sébastien Érard au début du 19e siècle a permis à la harpe de s'émanciper et de jouer dans toutes les tonalités. Avant ça, il y avait déjà des pédales, mais en fait, il n'y avait pas 3 hauteurs par pédale. On pouvait bouger qu'une fois. C'était déjà la harpe qui existait chez Mozart quand il a écrit le flûte et harpe et qui lui a fait détester l'instrument parce que lui, claviériste formé avec l'accès en permanence aux 12 demi-tons que contient une octave, ne pas pouvoir aller dans toutes les tonalités, c'était impossible à comprendre pour lui. Enfin, il l'a certainement compris, mais en tout cas, c'était très frustrant. Et d'ailleurs, on voit dans ses écrits à son père, quand il a écrit ce concerto pour flûte et harpe de Mozart dans sa période parisienne, que au début, il était fasciné par la harpiste, qu'il ne devait pas être moche, mais très vite, il est frustré par l'instrument, en fait, qui est limité dans ses modulations, alors que lui, Mozart, je l'aimais déjà beaucoup, parce que dans la flûte enchantée, l'air de Pamina, Ar, ich fühl's, il y a ce côté coloration majeure-mineure, cette exploration des tons voisins et des expérimentations déjà harmoniques assez dingues. Et ça, il n'a pas pu le faire quand il a écrit son flûte et harpe. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas une œuvre que les grands analystes reconnaissent comme une œuvre majeure de Mozart. Et on peut le comprendre, parce qu'il était limité par l'instrument. Et donc, grâce à Sébastien Érard en 1812, la harpe sort enfin de ce côté limité. Et donc, le premier vraiment grand harpiste au 19e, c'était Elias Parish Alvars. Grâce à Elias, il rencontre Liszt, il rencontre Berlioz, qui viennent à ses récitals et découvrent en fait que la harpe n'est pas forcément cette vieille mythe qui ne peut rien faire et l'intègre à leur orchestre. Voilà.
Oui, la harpe s'émancipe grâce évidemment aussi aux interprètes, voilà, qui font que l'organologie progresse.
Voilà, et donc l'harmonie et les pédales, pour en revenir là où on est parti, le harpiste, donc le système a été inventé quand même pour être pratique, j'allais dire, pour qu'on suive l'ordre des dièses ou des bémols et que ce soit réparti de manière équitable entre le pied droit et le pied gauche. Alors, vous pouvez me dire, il y a 7 notes, donc déjà on est mal barré, on en a 4 à droite et 3 à gauche.
Donc on peut pas moduler hyper vite quand même à la... non, non. Est-ce que c'est ça qui explique que de temps en temps il y a plusieurs harpes aussi?
Oui, oui.
Sur une œuvre où il y a beaucoup de modulation.
Voilà, alors les gens qui ont vraiment compris ça, c'est des gens comme le génie de ces parties de harpe là ou qui sont vraiment bien pensés pour deux instruments, c'est Richard Strauss, vraiment, qui s'en sert vraiment à fond. Dans son Salomé en particulier, ses opéras de jeunesse, où là, vraiment, on voit qu'il avait compris qu'on ne pouvait pas tout faire. Moi, il y en a un qui me fascine, c'est Paul Dukas. Quand il écrit son opéra Ariane et Barbe Bleue, qui est un des opéras...
Orchestration géniale.
Oh, opéra incroyable, mine de rien, qui est resté dans l'ombre à cause de Péléas. C'est très dommage, parce que c'est une œuvre sublime. Inchantable, mais sublime orchestralement. Et là, les deux parties de harpe fonctionnent en osmose complète. Et on voit que, pareil, il avait tout compris de notre système. Et c'est vrai qu'on peut pas tout faire avec une harpe, contrairement à ce que peuvent dire certains harpistes. Par exemple, une gamme chromatique, ce que fait n'importe quel pianiste. Je veux dire, les pianistes, ils apprennent à faire les gammes chromatiques dans les études de Chopin ou chez Liszt. C'est quelque chose. Nous, on en est incapable, parce que
il y a une dextérité, mais même impossible.
Impossible, en fait. Ça va trop vite. Donc, on triche, en supprimant certains demi-tons, on fait un glissé, etc. Mais c'est pas vraiment pareil. Et je me souviens d'avoir eu une grande galade avec Catherine Michel, qui m'a précédé à l'Opéra de Paris. Je dis oui, la harpe est un instrument limité. Puis elle de monter sur ses grands chevaux en disant non, l'harpe est pas du tout un instrument limité, on peut tout faire avec une harpe. Je dis bah par exemple une gamme chromatique de Liszt, on peut pas la faire. Mais dit oui, mais pourquoi tu veux faire Liszt à la harpe? Bah oui, mais bon, parce qu'on aimerait bien pouvoir tout faire avec un instrument. J'allais dire effectivement, il y a rien d'aussi immédiat que le piano. Je me souviens d'avoir découvert la Wanderer Fantasy par David Frey, parce qu'en fait j'étais colocataire de David Frey quelques années. Et donc il bossait la Wanderer, je pense, pour son prix. Lui, il était déjà à la fin de ses études. Et puis la sonate de Liszt. C'est ces deux œuvres que j'ai découvertes avec lui. Il travaillait ça de manière très particulière, je me souviens. Ouais, super lent, super décomposé, avec un métronome. Il avait cette obsession du métronome, cette manière un peu gouldienne d'ailleurs, qu'on retrouve dans son jeu aujourd'hui.
Complètement,
hein.
Oui, qu'il assume.
D'ailleurs. Oui. Mais je me souviens, voilà, de me dire, la première fois que j'ai écouté la sonate de Liszt, j'étais sur le cul. Je veux dire, c'est juste une œuvre aussi complète, voilà. Et puis bah, la Wanderer Fantasy, écrit bien avant, mais c'est des œuvres monumentales. Et ça, à la harpe, on n'a pas ça. Pourquoi on n'a pas ça? Bah parce que pour arriver à un niveau de dextérité pareil sur une harpe, déjà, on peut pas complètement y arriver. Mais en plus, quand on y arrive, finalement, il y a tellement peu d'élus que souvent, ces élus sont pas des compositeurs. Ça reste des interprètes. Mais finalement, voilà, les grands compositeurs, c'était des claviéristes exceptionnels. Et ils avaient cette immédiateté du clavier. Je veux dire, l'enfant prodige Mozart, voilà, il jouait du clavecin les yeux bandés. Essayer de jouer de l'harpe les yeux bandés. Je veux dire, bon courage. Et ça, effectivement, l'harpe a souffert de ça dans son histoire parce qu'elle n'a pas eu de compositeurs qui s'y sont vraiment intéressés, sauf des harpistes. Et souvent, c'était pas des compositeurs aussi géniaux qu'eux. Ce que l'histoire de la musique a voulu retenir, les grands pianistes, quoi.
Sur cet extrait de la sonate de Pauline de Mitte par Emmanuel Cesson que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec notre artiste, comme il dit. Réalisation Christine Amado, prise de son Michel Gassic, mixage Sébastien Royer, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.